Affaires étrangères, Christine Ockrent, France Culture, en partenariat avec le magazine Courrier International.
Bonjour à tous. C'est l'une des plus belles villes du monde. Une ville-monde, en fait, à cheval sur quatre îles principales, longtemps le symbole de la prospérité et de la règle de droit à l'occidental face à l'immense Chine du continent. Hong Kong traverse ces jours-ci une épreuve cruciale dont l'ampleur et la gravité surprennent jusqu'aux protagonistes eux-mêmes. Un pays, deux systèmes, telle était la formule conçue lors de la restitution du territoire à Pékin par le colonisateur britannique il y a 22 ans. Ces derniers jours, 1 million de Hongkongais, soit un habitant sur 7, sont descendus dans la rue pour protester contre le projet de l'exécutif local de faciliter les extraditions vers la Chine continentale et donc de fracasser l'indépendance du système judiciaire. Demain, dimanche, une nouvelle mobilisation monstre était annoncée avec des risques accrus d'affrontements violents avec les forces de l'ordre. Et puis ce matin, il y a 2 heures tout juste, coup de théâtre, dans une conférence de presse, la chef de l'exécutif local annonce la suspension du projet de loi, un recul spectaculaire, mais pas définitif. Quelles sont donc maintenant les consignes de Pékin? Quelle est la marge de manœuvre du gouvernement local? Est-il discrédité? Quels sont les espoirs de ces jeunes Hongkongais prêts à tout pour affirmer leur identité spécifique et préserver leurs droits? Et pourquoi, cette fois-ci, les milieux d'affaires, les syndicats et même l'Église catholique ont-ils rejoint le mouvement? Xi Jinping, le président chinois, va-t-il préférer protéger les atouts commerciaux et financiers de la place de Hong Kong en pleine guerre à outrance, guerre commerciale avec les États-Unis, ou bien voudra-t-il prouver une fois de plus qu'il ne tolère aucune forme de contestation de son pouvoir? C'est ce que nous allons explorer ce matin grâce à vous. Jean-Philippe Béja, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur de recherche émérite CNRS aux séries de Sciences Po. Sébastien Dweg, directeur d'études à l'EHSS, est aussi en studio avec nous. Bonjour. Et puis, par téléphone de Hong Kong, Jean-Pierre Cabestan, vous êtes directeur de recherche au CNRS, professeur à l'Université Baptiste de Hong Kong. Nous aurons aussi en ligne de Tokyo Valérie Niquet, maître de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique, et de Boston, Philippe Lecor, de la Harvard Kennedy School. Jean-Pierre Cabestan, il est 17h03. On est en plein après-midi, donc à Hong Kong. Quelle est l'ambiance après cette conférence de presse de la chef de l'exécutif local qui a annoncé donc la suspension, mais pas le retrait de ce projet de loi?
Je dirais le mot qui vient à l'esprit, le premier mot qui vient à l'esprit, c'est soulagement. Soulagement parce que on n'était pas sûr qu'elle allait suspendre ce projet. Elle voulait maintenir la discussion, la reporter au sein du Parlement, mais elle ne voulait pas remettre en cause cette décision qu'elle avait prise de passer cette loi sur l'extradition. Donc soulagement, je pense que la suspension est en fait une suspension sine die, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de date donnée, il n'y a pas eu de date donnée de reprise de la discussion sur cette loi. Je pense que ça sera difficile pour Carrie Lam, la chef de l'exécutif, de remettre ce projet sur l'agenda du Parlement. Donc cette décision était très attendue, on la soupçonnait depuis hier déjà. Elle intervient, comme vous le savez, une semaine, pratiquement 6 jours après la grande manifestation monstre de dimanche dernier qui a réuni environ 1 million de personnes, jamais vue à Hong Kong depuis 1989, et surtout après la manifestation plus violente de mercredi dernier qui a eu lieu autour du Parlement de Hong Kong. Et là, on a vu une jeunesse extrêmement déterminée, extrêmement résolue et qui était prête à prendre des risques d'ailleurs pour mettre la pression sur le gouvernement de Hong Kong et le convaincre à suspendre ce projet.
Est-ce que la manifestation qui était prévue demain va avoir lieu, puisque, comme vous l'avez souligné, ce n'est jamais qu'une suspension. Donc on peut imaginer que les manifestants vont poursuivre leur pression, d'autant qu'ils ont obtenu une victoire.
Bien sûr, je pense que l'autre mot qui me vient à l'esprit, c'est le mot vigilance. Vigilance parce que, effectivement, Pékin et le gouvernement de Hong Kong peuvent très bien reprendre le projet. Je pense que les circonstances ne s'y prêtent pas. Et ce qui se passe actuellement à Hong Kong rappelle beaucoup à ceux qui se souviennent des événements de 2003, lorsque le chef de l'exécutif de l'époque, Tung Chye-hwan, avait soumis le projet de loi de sécurité nationale, ce qui avait provoqué d'importantes manifestations, et notamment une manifestation de 500 000 personnes qui avait contraint le gouvernement de Hong Kong à suspendre ce projet, sans pour autant l'abandonner complètement. Ce projet reste depuis 2003 sur l'agenda du gouvernement, mais comme on voit aujourd'hui, en raison de ce qui se passe, il est peu probable qu'il soit remis à l'ordre du jour très rapidement.
Pour qu'on comprenne cette lame de fond qui, encore une fois, est beaucoup plus importante que les... Il y a eu plusieurs manifestations qui ont égrené la vie politique et sociale de Hong Kong depuis la rétrocession. Mais là, ça a été véritablement une lame de fond. Pourquoi ? Parce que les enjeux étaient encore plus décisifs que précédemment ?
Alors moi je pense que cette loi c'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase, si vous voulez, pour parler familièrement. Après 3 ans de mesures prises par le gouvernement qui allaient tous dans le sens d'une plus grande prise de contrôle de Pékin sur la région de Hong Kong, interférences de plus en plus directes du bureau de liaison de Pékin, qui est le représentant de Pékin dans le territoire, l'arrestation et la condamnation à des peines de prison ferme des principaux responsables du mouvement des parapluies de 2014, qui avait été un mouvement en faveur de la démocratisation de Hong Kong, et beaucoup d'autres incidents, notamment l'enlèvement de libraires, et puis
l'interdiction... Oui, parce qu'ils avaient eu le tort de publier des livres assez grivois sur la vie privée des dirigeants de Pékin.
Dirigeants, notamment de Xi Jinping. Mais donc autant de, si vous voulez, de coups de poignard dans l'autonomie dans le système qui est en place depuis 1997, qui est un pays de système, donc l'autonomie politique de Hong Kong. Et on voit Pékin de plus en plus intervenir dans les affaires de Hong Kong et vouloir marginaliser les forces d'opposition à l'establishment et à Pékin dans le territoire de Hong Kong. Et ça, c'est, je pense que cette mobilisation contre la loi sur l'extradition, elle est le reflet beaucoup bien plus large donc de cette exaspération, cette colère, je pense, face à cette prise de contrôle de Pékin du territoire de Hong Kong.
Jean-Philippe Béja, il semblerait que les meilleurs experts, dont vous êtes tous, disent que désormais il ne s'agit plus d'un pays de système, mais d'un pays un système et demi.
Oui, c'est ce que disait récemment Émilie Lau, l'ancienne présidente du Parti démocrate. Et justement, l'énorme mobilisation s'explique par la volonté d'empêcher cette restriction des libertés de Hong Kong et de son autonomie. Et donc, ce nouveau coup sur un pays de système. Mais ce qu'il faut bien voir aussi, c'est que plus encore que l'article 23 qui concernait la sédition et qui donc concernait surtout les opposants politiques et les critiques politiques, cette affaire de l'extradition, ça concerne toute la société de Hong Kong, et aussi, et surtout, peut-être, les membres de l'establishment. Ce qui s'est passé au cours des derniers, après mercredi, la manifestation de mercredi, c'est qu'on a vu de nouveau, en fait, la BPA, les Business and Professional Alliance, qui est le parti d'hommes d'affaires pro-Pékin.
Le MEDEF local.
Oui, plus ou moins. Oui. Était, en fait, très hostile à cette loi, parce que l'extradition, ça les concerne eux-mêmes. Ils font des affaires en Chine. Quand vous faites des affaires en Chine, vous graissez un peu la patte, vous pouvez vexer un certain nombre de bureaucrates, et dans ces conditions, on vous accuse de corruption, etc., etc.
Donc, aucune protection.
Aucune protection, et vous retrouvez devant un tribunal chinois, vous n'avez aucune, vous avez une garantie, c'est d'être condamné. Et donc, dans ces conditions, les gens qui étaient qui sont le pro-establishment, et d'ailleurs, Carrie Lam a insisté beaucoup.
Carrie Lam, c'est donc la patronne de l'exécutif.
Elle a insisté beaucoup en disant, j'ai, après avoir consulté les gens de l'establishment que je remercie, nous avons décidé d'éviter les grandes contradictions à Hong Kong. Le gros problème, c'est que là, toute la société, vous savez, 1 million de manifestants, ça veut dire 7 millions, ça veut dire 9 millions de manifestants en France. C'est-à-dire, tout le monde est dans la rue. Tout le monde est dans la rue. Et il y a demain une autre manifestation qui est prévue. Donc, l'idée, c'est d'essayer d'empêcher qu'elle soit aussi importante, de désamorcer la contestation. Mais, d'ores et déjà, la suspension s'inédier, je suis d'accord avec ce que disait Jean-Pierre Cabestan tout à l'heure, on est en ce moment au scénario de l'article 23 en 2003.
On a déjà vu ça.
Rappelons-nous que un an après la suspension s'inédier de l'article 23, Tong Jianhua, le chef de l'exécutif, se retrouvait malade et devait démissionner pour raison de santé. Alors tout le monde se dit que peut-être que Carrie Lam ne se sent pas très bien. D'ailleurs, si vous l'avez regardée aujourd'hui, elle n'avait pas l'air en pleine forme.
Oui, mais enfin, ça, on imagine, mais est-ce qu'on peut penser qu'elle a, en quelque sorte, dépassé les consignes venues de Pékin, qu'elle a anticipé? Elle l'avait déjà fait, je crois, quand elle a déclaré que l'immense gare centrale de Hong Kong devenait, en fait, sous juridiction de la Chine continentale.
Alors voilà, là, il y avait eu une grande opposition de l'ensemble des démocrates, mais c'était passé. Alors on a réussi, on a disqualifié un certain nombre de députés pour que les choses passent bien, mais c'était passé. Et donc elle s'est dit, cette fois-ci c'est bon. Or, elle s'était engagée, en arrivant au pouvoir en 2017, à ne pas faire passer l'article 23, la législation sur l'article 23. Et je pense que il y a une conjonction d'intérêts, mais il y a aussi cette espèce d'aspect colonial qui va où le fonctionnaire colonial va au devant des désirs du maître ou de ce qu'il s'imagine être les désirs du maître.
Et les habitudes de l'époque britannique.
Vous savez, après avoir servi les colonialistes britanniques, on sert les maîtres de Pékin. On a l'habitude de servir les maîtres. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle s'est dit, avec le meurtre d'une Hongkongaise à Taïwan, elle s'est dit, voilà.
Donc ça, c'est l'origine.
C'est l'origine de ce.
Alors ça, il faut être très précis là-dessus parce que c'est fascinant. Donc il y a un Hongkongais qui assassine sa compagne à Taïwan.
Et qui revient à Hong Kong.
Il est en prison, mais uniquement parce qu'il a aussi piqué les cartes de crédit de la dame.
Voilà.
Et à partir de là, comme Taïwan refuse tout autant l'extradition et que
C'est-à-dire que non, à l'époque, il n'y a pas de loi d'extradition entre Taïwan et Hong Kong.
Je veux bien.
Oui, Sébastien Vey.
Non, parce qu'il y a eu quand même, il y a eu une discussion sur ça et je me suis renseigné assez précisément. Et alors, d'une part, même avec les territoires avec lesquels Hong Kong n'a pas d'accord d'extradition, il est possible d'extrader avec un vote du Conseil législatif cas par cas. Alors la question est de savoir, la Chine a été exclue expressément de cette disposition. Donc, si on considère que Taïwan fait partie de la Chine, ça ne suffit pas. Mais en principe, il était possible d'extrader vers Taïwan. Par ailleurs, le gouvernement taïwanais a fait 3 demandes d'assistance juridique dans le cas de ce meurtre, auxquelles le gouvernement hongkongais n'a pas répondu. Donc 3 fois sans réponse.
Mais
donc,
ça a été néanmoins, pour l'exécutif de Hong Kong, l'espèce ça a accéléré en quelque sorte cette intention de faire passer ce projet de loi en force. Un projet de loi, il faut le rappeler, qui concerne aussi les étrangers.
Voilà,
c'est-à-dire que les dirigeants des multinationales, de toutes les banques et entreprises diverses mondialisées installées à Hong Kong risquent peut-être toujours encore d'être visé par un tel dispositif.
Donc je pense qu'on peut pas dire aujourd'hui qui a été à l'initiative de ce projet. Il y a des signes qui suggèrent que c'était peut-être effectivement Carrie Lam, mais il y a aussi une conjonction, un faisceau d'indices qui est en particulier donc le cas de Meng Wanzhou, la fille du fondateur de Huawei, qui a été donc détenue au Canada suite à une demande d'extradition des États-Unis, et peu après donc cette cet événement, la Chine a pris un certain nombre de mesures de rétorsion. Donc, ils ont détenu 2 citoyens canadiens qui sont toujours en prison. On ne sait pas de quoi ils sont accusés.
Dont un chercheur de Crisis Group.
Tout à fait, voilà, Michael Kovrig. Et juste après est arrivé ce projet de loi à Hong Kong. Donc, on s'est dit, effectivement, est-ce que peut-être c'est une façon aussi de mettre la pression sur les hommes d'affaires ou les femmes d'affaires étrangers qui passeraient par Hong Kong et de les mettre sous la menace d'une extradition en Chine.
Retournons à Hong Kong, vous rejoindre Jean-Pierre Cabestan. Il semblerait qu'hier, la chef de l'exécutif de Hong Kong, donc Carrie Lam, a rejoint des envoyés et des experts de Pékin à Shenzhen, qui est donc l'immense ville en face de Pékin sur le continent, pour recevoir des consignes ou pour essayer de convaincre Pékin qu'il fallait faire marche arrière.
Alors, on ne sait pas exactement ce qui s'est dit. Hein. À Hong Kong, la version, c'est que ce qui circule le plus, c'est que c'est Carrie Lam qui est à l'origine de ce projet, mais évidemment, elle a demandé à Pékin l'autorisation de le mettre en route. Elle a reçu l'aval de Pékin, donc qui était partie prenante à ce projet de loi d'extradition. Mais le problème, c'est que je pense que Pékin l'a un petit peu lâché au dernier moment, enfin ces derniers jours. Au vu des manifestations et de l'ampleur des réactions de Hong Kong, mais des réactions de la communauté internationale à Hong Kong, mais aussi à l'étranger. Et donc, je pense que le gouvernement chinois est assez occupé et préoccupé par ses difficultés avec les États-Unis, ses difficultés intérieures avec le ralentissement de l'économie, la montée des mécontentements sociaux, la montée du chômage, et ne voulait pas s'occuper directement de cette affaire. Évidemment, Carrie Lam ne peut rien faire sans l'aval de Pékin, et ça, c'est pas nouveau. Hein. Ça remonte, ses prédécesseurs également, ça remonte à 97. Et donc, cette réunion dont on ne connaît pas la teneur ni les conclusions, enfin, on peut les imaginer, a été une réunion qui a, à mon avis, donné instruction à Carrie Lam, eh bien, de suspendre pour l'instant ce projet et de trouver un moyen de rétablir l'harmonie, comme on dit, mais en tout cas la stabilité à Hong Kong et d'éviter que d'autres manifestations violentes aient lieu. Je pense qu'une des préoccupations de Pékin, et ça a été évoqué dans les documents internes et qui ont été diffusés ici, c'est les risques de révolution de couleur, ce qui est assez intéressant parce que ça veut dire qu'ils se préoccupent pas seulement de ce qui pourrait se passer à Hong Kong, une revendication renouvelée en faveur d'une démocratisation complète du territoire, ce qui avait été la revendication principale lors du mouvement des parapluies en 2014, mais aussi un mouvement qui pourrait avoir une influence en Chine. Moi, je ne pense pas qu'elle en aurait une dans un avenir proche, mais enfin, il y a une espèce de paranoïa à Pékin. Donc, quoi, ce qui se passe à Hong Kong pourrait avoir des effets néfastes en Chine continentale.
Et ce, malgré la censure, parce qu'il semble...
Ah oui, j'ajouterais justement que c'est difficile il était très, très difficile en Chine continentale de voir les images des manifestations de dimanche dernier, et encore plus celles des heures de mercredi, sauf pour montrer les pauvres policiers blessés totalement abstraction la mobilisation des étudiants et des jeunes hongkongais ce jour-là.
Alors le China Daily, donc l'organe du parti, parlait évidemment des forces étrangères qui auraient été derrière ces manifestations.
Et ils veulent rigoler. Hein. Enfin, ça, c'est la propagande communiste qui, évidemment, fait du mensonge une pratique courante. Je pense que ce mouvement était, enfin, les manifestations de dimanche et de mercredi l'ont montré, était un mouvement local, dirigé, organisé et suscité localement, et que les pays étrangers n'ont aucune participation à ce mouvement. J'ajouterais cependant qu'il ne faut pas oublier qu'Hong Kong est une ville cosmopolite, avec environ 200 000 étrangers qui ont un droit de résidence permanent à Hong Kong et qui ont des droits politiques à Hong Kong, qui ont le droit de vote à Hong Kong, ce qui est mon cas d'ailleurs. Donc, légalement, j'ai le droit aussi de participer au débat public à Hong Kong et à des manifestations. Et il y avait un certain nombre d'étrangers, enfin d'occidentaux qui ont participé aux manifestations de dimanche et de mercredi. Donc, il faut se méfier parce que Hong Kong est une ville cosmopolite et il faut que les dirigeants communistes à Pékin choisissent. Soit ils veulent conserver une ville cosmopolite, ouverte sur l'étranger et donc un pôle de développement de l'économie mondiale et chinoise, soit ils font de Hong Kong une ville chinoise comme une autre, mais alors là, à ce moment-là, c'est la mort de Hong Kong, et c'est la mort de la prospérité aussi de cette place financière.
Le président Xi Jinping avait néanmoins déclaré, je crois que c'était en février dernier, je cite, la Chine ne doit absolument pas suivre le modèle occidental de l'indépendance judiciaire. Donc, si véritablement ce projet de loi est suspendu indéfiniment, on peut imaginer, et c'est d'ailleurs ce que Jean-Philippe Béja signifiait d'entrée, que le pouvoir de Pékin, par nature, ne peut tolérer un report indéfini qui serait l'équivalent, en fait, d'un retrait total. Je veux dire, le gouvernement central ne saurait avoir tort.
Oui, mais bon, il faut bien qu'ils composent avec la réalité. Enfin, ils sont devant un choix difficile. Et je pense que leur marge de manœuvre pour qu'ils concernent Hong Kong est assez étroite, en fait, parce que ils ont d'autres chats à fouetter, d'autres soucis, et notamment une pression des États-Unis qui ne concerne pas seulement la guerre commerciale, mais les affaires diplomatiques et stratégiques. C'est vraiment l'enjeu et la domination, l'équilibre des forces mondiales demain et aujourd'hui. Et donc, je pense que Xi Jinping ne veut pas non plus aller trop loin en dépit de son penchant à refuser tout compromis. Il ne veut pas non plus exacerber la situation à Hong Kong. Il voudrait plutôt que justement Carrie Lam se charge de la calmer, quitte à remplacer le chef de l'exécutif d'ici 2022, d'ici 3 ans, quand elle aura terminé son premier mandat, parce que je pense que sa popularité a été sacrément écorné par cette affaire.
Une dernière question pour vous, Jean-Pierre Cabestan. À Hong Kong, est-ce que, selon vous, la manifestation demain sera maintenue et est-ce qu'elle aura oui. l'ampleur qu'on pressentait ?
Alors, c'est ça un peu le risque. Je pense qu'elle sera maintenue. Elle aura une ampleur, je pense, moins importante que celle du dimanche dernier. Elle enverra un signal, je pense, assez fort. Maintenant, le risque pour les organisateurs, c'est qu'ils ne soient pas assez mobilisés maintenant que les choses ont été plus ou moins réglées pour envoyer un message assez fort. Mais bon, on le verra. Seul l'avenir nous dira si cette vigilance dont je parlais va rester planée entière, va permettre de créer une forme de rapport des forces qui, s'il ne peut pas favoriser une démocratisation et la remise en scène des réformes politiques, au moins permettra de mettre un coup de frein, un coup d'arrêt à l'érosion des libertés publiques et de l'autonomie politique de Hong Kong.
Jean-Pierre Cabestan, merci mille fois d'avoir été en ligne avec nous ce matin, enfin cet après-midi pour vous. Éric Scholl, bonjour, vous dirigez Courrier International, notre partenaire, et vous avez trouvé dans la presse, surtout dans la presse britannique, ce qui est assez logique, de quoi nous brosser le portrait de cette dame, Carrie Lam, qui vient véritablement de subir un revers majeur.
Oui, alors on l'appelle la marionnette de Pékin, c'est ainsi en tout cas que la surnomme le Guardian, et c'est vrai que les temps sont durs pour cette responsable politique de 62 ans, devenue la bête noire des Hongkongais depuis ses tentatives pour imposer ce texte autorisant les extraditions vers la Chine. La controverse autour du projet de loi fait chuter sa popularité à un niveau record, constate le Guardian. Il faut dire que cette catholique dévouée, qui, je cite le quotidien britannique, croit avoir une place au ciel parce que, comme elle le dit elle-même, « je fais le bien », n'a jamais été très appréciée par les 7,5 millions de ses compatriotes hongkongais. S'il y a 2 ans, elle a décroché ce poste de numéro 1 de Hong Kong, et c'est la première fois qu'une femme obtenait ce poste, c'est bien parce qu'elle était la candidate favorite de Pékin, précise le journal. Cette femme de conviction, certains parlent d'arrogance, a toujours avancé droit dans ses bottes, mais cette fois-ci, raconte la journaliste, sa détermination implacable pourrait se retourner contre elle, mais aussi contre Hong Kong, car je cite, la ville est confrontée à l'un de ses plus graves défis depuis le transfert de la domination britannique. Carrie Lam avait pourtant réussi jusqu'à présent un parcours exceptionnel, issue d'une famille de 5 enfants. Elle a excellé à l'école avant d'entamer une carrière dans la fonction publique coloniale sous le régime britannique, raconte le Guardian. Puis, après le retour de Hong Kong à la Chine en 1997, eh bien, elle a poursuivi son ascension dans le territoire devenu semi-autonome. En 2007, elle n'a pas été élue directement par les Hongkongais, mais par un comité de près de 1200 membres, largement dominé par les partisans de Pékin. Et c'est précisément le reproche qui lui est fait, son manque d'indépendance vis-à-vis de la Chine, des accusations dont elle se défend. Ainsi, elle a expliqué un jour à la BBC, « Dire que je ne suis qu'une marionnette, que j'ai gagné cette élection grâce aux forces pro-Pékin, ce n'est pas reconnaître ce que j'ai fait à Hong Kong au cours des 36 dernières années. » Mais c'est la même qui, une autre fois, a confié au Financial Times son admiration pour Xi Jinping. Carrie Lam avait promis de rassembler les Hongkongais et en particulier les jeunes lorsqu'elle est arrivée au pouvoir il y a 2 ans. C'est raté. Et plus isolée que jamais, elle espère désormais que la suspension de ce projet de loi permettra le retour au calme, nous explique le South China Morning Post qui suit en live sur son site les événements depuis ce matin. Alors bien sûr, le chapeau est peut-être trop large pour le faire porter uniquement à Carrie Lam. Ces protestations sont la dernière démonstration d'une immense colère qui couve depuis des années et qui est engendrée par la façon dont la ville est gérée par ses administrateurs pro-Pékin, constate le journal. Trop autoritaire, trop rigide, trop loyaliste. Carrie Lam est aujourd'hui dans le viseur des Hongkongais. Elle, qui n'est pas connue pour montrer son émotion, a craqué cette semaine dans une interview filmée. « Mon amour pour cet endroit, elle parle de Hong Kong, m'a amené à faire un certain nombre de sacrifices », a-t-elle dit, les larmes aux yeux. Mais quelques heures plus tard, c'était la même qui envoyait les policiers à l'assaut des manifestants, déclarant « Les opposants frappés par les gaz lacrymogènes, les balles en caoutchouc et les gaz poivrés sont semblables à des enfants pourris, gâtés, ayant besoin de discipline ».
22 ans donc depuis le retour de Hong Kong à la Chine, on voit bien que le système lui-même est fragilisé et il l'a été par différentes soubresauts politiques au cours de ces 22 dernières années.
Oui, d'ailleurs, si on remonte un peu dans le temps, on sait depuis 1984, l'année où Margaret Thatcher a accepté de rendre Hong Kong à la Chine, que la fin de l'indépendance du territoire par rapport à Pékin serait inévitable. Et avec cette loi d'extradition, écrit la Financial Australian Review, on a atteint un point de basculement. Les Hongkongais, qui n'ont pas le luxe d'un passeport étranger, se résignent au fait que leur ville fait partie d'un pays qu'ils ne considèrent pas comme le leur, écrit ce journaliste indépendant. C'était pourtant théoriquement garanti jusqu'en 2047, mais Pékin est trop impatient d'attendre aussi longtemps, poursuit l'auteur. Les Hongkongais sont venus rappeler à Carrie Lam, mais aussi aux dirigeants de Pékin qui ne se laisseraient pas faire, et ils comptent d'ailleurs, Jean-Pierre Cavestan nous rappeler un instant, à nouveau descendre dans la rue demain.
France Culture, Affaires étrangères.
Christine Ockrent.
Sébastien Weck, je rappelle que vous êtes directeur d'études au Centre de recherche historique à l'EHESS. On a longtemps souligné le relatif déclin de Hong Kong. La ville monde, certes, mais par rapport à Singapour, plutôt en perte de vitesse, avec une économie de plus en plus contrôlée par les entreprises chinoises, par le pouvoir chinois. Est-ce que d'une certaine manière, cette extraordinaire secousse politique rend à Hong Kong ses atouts spécifiques?
C'est sûr que là, ce qui était en jeu, c'était le système juridique. Donc ça, c'est vraiment le cœur de Hong Kong, le cœur de la promesse qui a été faite. Donc moi, je préfère parler du haut degré d'autonomie. Un pays, deux systèmes, c'est une formule un peu ambiguë parce que les deux systèmes font référence au capitalisme et au socialisme. Donc la Chine s'est simplement engagée à ce qu'il n'y ait pas de système socialiste à Hong Kong. Donc ça, c'est une promesse dont on peut penser qu'elle sera tenue, d'autant que la Chine est elle-même entre-temps devenue capitaliste. Mais donc ce qui a été promis...
Tout en restant, on ne sait pas s'il faut dire socialiste.
Communiste, voilà.
Voilà.
Mais donc, ce qui a été promis, c'est un haut degré d'autonomie, et donc ça, c'est ce qui effectivement a fait l'objet d'une érosion progressive avec les différentes étapes que Jean-Pierre Cabestan a rappelé aussi, avec donc le libraire qui a été qui a disparu de Hong Kong et a été retrouvé de l'autre côté de la frontière, avec la disqualification de députés élus en vertu d'une réinterprétation de la loi fondamentale, avec
ça, c'était en 2016. 2016.
En 2016, voilà, la non-prolongation du visa d'un journaliste étranger, c'était quand même, ça s'était jamais vu, ça c'était l'année dernière, en 2018, l'interdiction d'un parti politique, donc tout ça, c'est des atteintes directes au haut degré d'autonomie. Mais le système juridique, c'est vraiment le cœur de Hong Kong, parce que c'est à la fois l'attachement aux libertés fondamentales, la garantie de pouvoir bénéficier de ces libertés fondamentales, et le rôle de Hong Kong comme centre d'affaires de l'Asie, disons, autour de la Chine. Donc, on a vu hier une information suggérant que certains grands patrons hongkongais avaient commencé à faire sortir de l'argent de Hong Kong pour l'envoyer à Singapour. Donc, effectivement, ça va dans ce sens, mais le jour où il n'y a plus de garantie juridique, où le système judiciaire hongkongais est vu comme étant sous la coupe de Pékin, effectivement, Hong Kong perdra cet atout-là. Donc, c'est pour ça que je pense que cette manifestation a largement dépassé en ampleur les manifestations pour la démocratie. La démocratie, il y a une bonne partie de la population hongkongaise qui souhaiterait plus de démocratie.
Donc ça, c'était 2014. Les parapluies, ça a duré deux mois,
voilà,
pour obtenir
jours,
en fait l'élection au suffrage universel du chef de l'exécutif.
Voilà.
Sans succès.
Disons, le succès du mouvement est d'avoir empêché le passage du projet soumis par Pékin. Donc là, c'était très clairement, ça venait de Pékin. Donc l'idée était de donner la possibilité d'élire au suffrage universel un candidat parmi des candidats choisis par Pékin. Et donc les Hongkongais, parce qu'il y a un engagement dans la loi fondamentale de Hong Kong, Pékin s'est engagé à progressivement démocratiser le territoire, qui n'avait pas été démocratique sous les Britanniques, donc il faut le rappeler. Donc les Chinois ont beau jeu de dire pourquoi est-ce que vous nous demandez la démocratie alors que les Anglais ne l'ont pas fait. Donc il y a cette promesse de démocratisation progressive. Et les Hongkongais ont estimé que si ce projet passait, les Chinois seraient quittes de cette promesse, donc que ce serait achevé, qu'il n'y aurait plus d'autres démocratisations du territoire. Donc ça a été quand même important que le mouvement des parapluies parvienne à refuser ce projet. Et donc il y a eu un vote au Letchko, il a été... en plus il y a eu une confusion, mais enfin il fallait la majorité de 2/3, il n'a pas obtenu la majorité de 2/3, et les députés pro-Pékin se sont trompés, au final il a perdu en voix.
Donc, mais cette fois-ci, encore une fois... Jean-Philippe Béja, ce mouvement a pris une ampleur encore plus grande. Il ne s'agit pas seulement des jeunes dont les mères, les images sont spectaculaires. La nuit dernière à Hong Kong, les mères des jeunes manifestants brandissaient à la fois leur portable allumé et des pancartes en disant « ne perdons pas la jeune génération, sinon il n'y aura plus de Hong Kong ».
Oui, non, je crois qu'il y a véritablement un sursaut de toute la population de Hong Kong. Je répète, une personne sur sept, c'est l'ensemble de la population. Et c'est quelque chose qui est quand même assez régulier dans l'histoire de Hong Kong, dans l'histoire contemporaine de Hong Kong. C'est-à-dire que chaque fois que l'identité profonde, le système profond de Hong Kong qui fait son identité est menacé, vous avez d'énormes manifestations contre ces infractions. Vous avez eu ça en 2003 avec l'article 23, en 2010 avec l'éducation patriotique, le mouvement des 2012 pardon, en 2014 avec le mouvement des parapluies, et aujourd'hui avec cette protestation contre. Alors la loi sur l'extradition, c'est quelque chose de très important, comme le disait Sébastien, ça concerne même l'identité propre de Hong Kong. Mais surtout, ce qu'il faut voir, c'est que la population qui ne peut pas avoir la majorité dans les institutions. Rappelons quand même que depuis qu'il y a des élections à Hong Kong, depuis 1991, les démocrates ont obtenu toujours autour de 60% des voix. Donc, s'il y avait un système véritablement démocratique, eh ben, on aurait un autre chef de l'exécutif. Mais, donc, comme il n'y a pas cette possibilité de s'exprimer dans les institutions, on s'exprime dans la rue. Et la rue a toujours bloqué, jusqu'à présent, les initiatives qui visaient à transformer Hong Kong. Je crois que c'est quelque chose d'essentiel. Alors, demain, y aura-t-il du monde ou pas? Il risque d'y avoir du monde, comme en raison de la protestation contre la violence. La violence qu'a exercée la police de Hong Kong mercredi dernier, c'est que on est à Hong Kong, on n'est pas à Paris. C'est pas les gilets jaunes. Je veux dire, le mouvement des parapluies, il y a eu 87 grenades lacrymogènes qui ont été tirées. Ça a fait un tollé dans la ville. Ouais. Mercredi, il y a eu le double.
Et des forces antiterroristes de Hong Kong entraînées, semble-t-il, dans le Xinjiang, c'est-à-dire entraînées en fait
contre les Ouïghours, des foules. Ça fait partie des rumeurs qui circulent. Mais ouais. Surtout, il y a eu une volonté délibérée du pouvoir d'affronter des manifestants qui étaient franchement, pour l'essentiel, extrêmement pacifiques. Donc il y a eu cette volonté, et c'est quelque chose contre le... Ça aussi, ça fait partie de l'identité de Hong Kong. C'est-à-dire une police qui, d'habitude, permet aux manifestations de s'exprimer. Depuis quelque temps, on a eu un certain changement de l'attitude de la police. Et je crois que ça va aussi provoquer une affluence demain. Mais l'affluence sera moins forte. L'idée était effectivement de désamorcer la manifestation de demain. On verra.
Partons pour Boston. Bonjour Philippe Lecor, et pardon de vous réveiller extrêmement tôt pour vous.
Bonjour Christine, non, il n'y a pas de problème.
Bon,
le temps est tout à fait favorable et donc pas de problème pour se lever tôt.
Bon, enfin il est quand même 5h30 du matin hein, à peu près. Dites-moi Philippe, comment réagit-on de l'autre côté de l'Atlantique à ce qui se passe à Hong Kong au moment où les relations entre Pékin et Washington sont véritablement extrêmement tendues avec cette guerre commerciale qui ne baisse pas en intensité?
Ben écoutez, ce qui a un petit peu mis le feu aux poudres des relations, une fois de plus, entre Pékin et Washington, sur cet aspect en particulier, c'est la rencontre le 16 mai entre Mike Pompeo, le secrétaire d'État, et Martin Lee, qui est la figure tutélaire, vous savez, du Parti démocrate de Hong Kong, qui est venu à Washington, qui a rencontré les officiels américains, et en particulier donc le secrétaire d'État, qui a donc apporté tout son poids, je dirais, au mouvement démocratique contre la loi sur l'extradition. Donc il a mentionné ce texte, et évidemment Martin Lee, qui a plus de 80 ans, mais qui est un personnage extrêmement respecté dans le monde, puisqu'il avait joué un rôle capital dans les discussions sur la rétrocession de Hong Kong en 97. Je pense que ça a un peu agacé Pékin, qui depuis met en avant ses interférences, ses immixtions de l'administration américaine dans une question qui touche à la souveraineté. Si vous voulez, parmi les nombreux points de conflit entre les États-Unis et la Chine, maintenant il y a également Hong Kong, plus le Xinjiang, plus le bien entendu la question commerciale, la mer de Chine du Sud, etc., Taïwan. Donc je pense que le fait que le Congrès américain en particulier ait appelé à faire passer un texte demandant au secrétaire d'État de certifier le statut autonome de Hong Kong, c'est-à-dire qu'en gros, chaque année, on ferait une mise à jour de l'État de Hong Kong sur son autonomie, son degré d'autonomie. Ça aussi, si vous voulez, ça a été dénoncé par le ministère des Affaires étrangères chinois à Pékin. Et donc, c'est une pierre de plus, je dirais, aux mauvaises relations entre les deux. Et pour le coup, vous avez la Chambre de commerce américaine de Hong Kong, Ann Cham, qui a également été très critique. Il est rare d'entendre des propos aussi critiques de la part d'entreprises américaines basées sur le territoire. Donc là, si vous voulez, ça participe d'une unanimité, je dirais, du monde des affaires, quasi unanimité du monde des affaires, notamment expatriés à Hong Kong. Là, je trouve que ce sont des signes qui ne trompent pas, parce que le côté international de Hong Kong est directement mis en cause. Et c'est embêtant pour l'image de Hong Kong, qui est encore une fois une cité internationale.
Mais donc, Philippe Lecor, pour Donald Trump, qui n'a pas encore tweeté, bien qu'il se lève très tôt, et qui regarde vraisemblablement les chaînes d'information continues comme à son habitude. Pour Donald Trump, c'est en fait un argument de plus contre Pékin.
C'est-à-dire que Donald Trump a tendance à mettre tout sur la table, ce qui évidemment dilue le message. Bon, là, il est clair que cela va dans cela apporte de l'eau au moulin de ceux qui disent, au lieu de mettre en avant cette question commerciale qui est cette question, oui, la question commerciale, qui est quand même qui est controversée, hein, parce que finalement, on n'est pas sûr que l'économie américaine va y gagner, probablement pas. En revanche, mettre en avant la question des droits de l'homme, c'est ce que disait Robert Zelig, que vous connaissez sûrement dans une tribune du Wall Street Journal il y a quelques jours. Au contraire, ça, c'est le fondamental qu'il faut mettre en exergue, c'est-à-dire le fait que les droits de l'homme sont bafoués en Chine, au Xinjiang notamment, encore une fois, mais aussi maintenant à Hong Kong. Et donc, il est possible que Donald Trump lui-même en parle, et en tout cas, l'administration en a déjà parlé par la voix du secrétaire d'État, qui est vraiment le bras droit de Donald Trump, à bien des égards. Et donc, il est clair que, encore une fois, la question juridique, le fait que ce soit sur l'extradition, soit aussi lié à l'autonomie, au statut d'autonomie de Hong Kong, je crois que ça a eu un reflet dans l'opinion publique américaine, dans la classe politique, démocrate.
Et dans les milieux d'affaires, comme vous le soulignez. Merci. Merci mille fois, Philippe Lecor, d'avoir été par téléphone en direct avec nous. Jean-Philippe Béja, sur le plan économique et financier, il faut rappeler que Hong Kong est la 4e place financière mondiale et conserve un statut tarifaire pour les échanges internationaux qui n'est pas celui de la Chine. Donc c'est aussi un atout dont Pékin se priverait.
C'est un élément essentiel, évidemment, dans le maintien, dans la décision de Pékin de maintenir la situation d'un pays de système. Car cette situation particulière de Hong Kong peut être remise en question à tout moment. Ça fait l'objet d'un accord international. Et donc les pays qui travaillent avec la Chine et avec Hong Kong peuvent très bien retirer ce statut d'autonomie et la présence à l'OMC, la zone tarifaire différente. Or, c'est aujourd'hui, en période de guerre commerciale avec les États-Unis, on voit bien l'intérêt que peut avoir Hong Kong. Je ne dirais pas qu'on est en train de retourner aux années 50, lorsque Hong Kong avait permis à la Chine de tourner le blocus qui avait été fait contre elle par les pays occidentaux. Mais tout de même, on peut évidemment utiliser Hong Kong de cette manière. Ce qui explique aussi les concessions du gouvernement chinois. Xi Jinping n'est pas non plus... d'abord, il n'est pas Dieu, et d'autre part, c'est pas un idiot. Il sait très bien... c'est un léniniste. Il sait évaluer un rapport de force. Et bien évidemment, cette menace qui pèse sur le statut d'un pays de système, mais dans les échanges internationaux, est quelque chose qui léserait énormément la Chine. D'autre part, je crois donc dans ces conditions qu'il est obligé de reculer. Mais ils avaient bien préparé les choses. Dès jeudi, l'ambassadeur de Chine en Grande-Bretagne avait dit « C'est une décision du gouvernement de Hong Kong. » On se préparait déjà. Donc l'idée de la Chine, c'est qu'il faut avoir le minimum possible d'expression politique divergente à Hong Kong. On craint la contagion. Alors que je suis d'accord avec Jean-Pierre Cabestan, on se demande pourquoi, mais ce qui est évident, c'est que malgré le blocus de l'information, tout le Guangdong sait ce qui se passe à Hong Kong, et tous les gens qui s'intéressent un petit peu à ce qui se passe dans le monde savent ce qui se passe à Hong Kong. Et à chaque fois que quelqu'un met simplement sur son Weixin, son Twitter, une photo des manifestations, il est convoqué pour prendre le thé par la sécurité publique. Donc il y a une véritable
inquiétude. Prendre le thé étant une expression chinoise, il faut se méfier voilà. Dans certains cas.
Et donc, si vous voulez, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on a très peur de ce qui se passe à Hong Kong. Et en même temps, bien sûr, pour Taïwan, c'est une catastrophe.
Alors précisément, s'il y a un endroit où l'inquiétude est majeure, c'est Taïwan. Bonjour Valérie Niquet, merci d'être au téléphone avec nous. Vous êtes à Tokyo, je rappelle que vous êtes maître de recherche à la Fondation pour la Recherche Stratégique à Tokyo, 7 heures de plus qu'en France. Qu'est-ce qu'on dit de ce coup de théâtre à Hong Kong et est-ce que l'inquiétude a un peu diminué ou pas?
Alors, au Japon, la presse en parle beaucoup. Mais en revanche, le gouvernement japonais a fait des déclarations, mais des déclarations indiquant qu'il suivait ce qui se passait à Hong Kong de très près, et notamment cette fameuse loi sur l'extradition qui, comme le rappelait d'ailleurs la présidente taïwanaise, pourrait toucher tout étranger qui serait installé à Hong Kong ou qui ferait des affaires à Hong Kong et qui ferait quelque chose qui pourrait éventuellement être considéré comme un délit par Pékin. Donc le Japon s'inquiète, mais en même temps le Japon officiellement est assez prudent dans la mesure où le Japon pour le moment est totalement focalisé sur la préparation du G20 auquel la Chine participe.
Oui, ce sera à la fin du mois à Osaka.
Voilà. À Osaka, et c'est vraiment quelque chose dont on parle en permanence ici, parce que c'est un peu, pour l'image du Japon, extrêmement important. Le président Xi Jinping chinois doit y participer, et par ailleurs, le Japon espère, est plutôt dans une phase de, non pas de rapprochement avec la Chine, mais ils sont pas aveugles sur l'évolution de la politique chinoise qu'ils considèrent toujours comme extrêmement dangereuse pour la région et agressive. En revanche, ils sont plutôt sur une phase de tenter d'apaiser les choses avec Pékin. Ils espèrent recevoir Xi Jinping l'année prochaine. Donc on voit bien qu'il y a une volonté de la part des autorités japonaises à la fois de critiquer, de suivre ce qui se passe à Hong Kong et en même temps de ne pas faire de... Ils ne sont pas dans une phase de déclaration particulièrement sévère sur la situation.
Certes, mais on suit au Japon et pour cause de proximité géographique évidente, la situation est le seul de Taïwan, surtout depuis cette rencontre à Singapour, il y a une quinzaine de jours, aux entretiens dits du Shangri-La, où on a vu et entendu le ministre chinois de la Défense avoir véritablement une prise de bec avec son homologue américain à propos de Taïwan, où il a dit avec une brutalité rarement atteinte que, bien évidemment, inéluctablement, Taïwan serait rattaché à la Chine.
Alors là, il est dans la continuité de ce que Xi Jinping avait lui-même déclaré quelque temps auparavant. Effectivement, pour la Chine, il y a non pas urgence, mais on sent bien que pour le président chinois, il aimerait peut-être, mais avec énormément de difficultés, rien n'est acquis, évidemment, heureusement, ce serait pour lui un triomphe de parachever cette réunification de la patrie entre la Chine et Taïwan. Mais évidemment, avec ce qui se passe à Hong Kong et l'attitude de la Chine à l'égard de Hong Kong, et ça n'est pas nouveau, l'inquiétude à Taïwan a plutôt tendance à grandir, et tout ça ne joue pas du tout en faveur de ceux, y compris au sein du Kuomintang, qui seraient, même pour un apaisement des relations avec Pékin. Les opposants actuels du Kuomintang ont eux-mêmes fait des déclarations condamnant ce qui se passait à Hong Kong, et la présidente indépendantiste elle-même peut reconstituer, elle avait un peu perdu de son influence, enfin en tout cas dans les sondages ou dans les dernières élections, mais on voit aujourd'hui qu'elle a une position extrêmement ferme et elle rappelle que ce fameux statut de un pays, deux systèmes, Hong Kong démontre que ça ne peut pas fonctionner, et ça ne peut d'ailleurs pas fonctionner pour une bonne raison, c'est que dès le début, pour la Chine, l'idée de un pays, deux systèmes était une stratégie permettant de faire passer la pilule, entre guillemets, du rattachement de Hong Kong à la Chine, avec un statut qui théoriquement devait rester très autonome pendant 50 ans. Et on voit bien que, comme l'a déclaré d'ailleurs, je crois, un responsable chinois récemment, cette stratégie du un pays, deux systèmes a joué son rôle et, en quelque sorte, elle n'a plus d'utilité aujourd'hui. Et par ailleurs, comme Jean-Philippe Béja l'indiquait tout à l'heure, le contre-exemple de Hong Kong pour la population chinoise elle-même, même si la censure fait tout pour éviter que les informations passent, est très négatif en Chine même. Et la peur, évidemment, c'est que, notamment dans la province du Guangdong, qui est très tournée vers l'extérieur et très tournée vers Hong Kong, ce qui se passe à Hong Kong suscite également des mouvements dans la province elle-même, même si on peut difficilement imaginer des soulèvements en Chine qui soutiendraient ce qui se passe à Hong Kong, mais tout de même, tout ça montre aussi que le pouvoir chinois n'est pas tout puissant, que certains tentent d'y résister, qu'on peut manifester, même si la répression est sévère, et on voit bien là, avec les, non pas les reculades, mais enfin les hésitations qui semblent s'être exprimées sur l'avenir de cette loi, ou en tout cas le timing de... Il y a des divisions à Hong Kong même sur la manière de gérer cette affaire. Tout ceci n'est pas bon du tout pour la personnalité de Xi Jinping, d'autant moins que, semble-t-il, en Chine, certains trouvent que son attitude ou sa position extrêmement agressive ou offensive a eu des effets finalement très négatifs pour les intérêts chinois, que ce soit dans les relations avec les États-Unis, que ce soit les réactions contre ces fameuses routes de la soie qui à la fois intéressent mais inquiètent beaucoup également. L'image de la Chine a énormément souffert ces dernières années et ce qui se passe à Hong Kong aujourd'hui ajoute encore à cette dégradation de l'image de la puissance chinoise.
Merci mille fois Valérie Niquet de nous avoir exprimé depuis Tokyo, quel lapsus, l'onde de choc en fait dans cette partie de l'Asie du Sud-Est. Sébastien Dweg, Valérie faisait allusion aux quelques grincements que l'on semble entendre au sommet du pouvoir à Pékin. Est-ce que cette semaine, et on verra encore une fois ce qui se passe demain à Hong Kong, mais est-ce que ces événements de Hong Kong peuvent modifier, aggraver ou au contraire colmater ce qui semble être comme un début d'affaiblissement de Xi Jinping, même si probablement le terme est excessif.
Bon, l'impact sur la politique, sur le sommet de l'État reste sûrement limité, même si sur les réseaux sociaux ce matin, d'aucuns se plaisent à souligner que c'est l'anniversaire de Xi Jinping, donc les Hongkongais lui ont fait un joli cadeau d'anniversaire. Mais
et là, il n'y a pas de censure, là, les messages de bon anniversaire
ne parviennent pas jusqu'à Zhong Nanhai, je crois. Mais non, enfin, il est certain, pour revenir au plan plus structurel, que Xi Jinping a reconfiguré, enfin, je ne veux pas dire violé ou brisé les règles, mais il a quand même ce qu'on appelle en anglais bending the rules. Il a modifié les règles à son avantage, des règles qui étaient certes pas gravées dans le marbre, mais qui avaient permis quand même au pouvoir de trouver une certaine stabilité après Tiananmen, donc dans les années 90 et 2000. Et il y a toujours un prix quand on remet en cause les règles. Donc le fait justement d'insister sur des critères d'âge, d'insister sur un nombre de mandats, etc. au sommet de l'État a permis d'une certaine façon d'apaiser quelque peu les luttes de succession, de les contenir dans un certain cadre. Alors une fois que ces règles sont brisées, évidemment, il devient plus difficile de contenir ces problèmes sans entrer directement dans des conflits de personnes. Donc Xi Jinping a certainement offensé ou déplu un certain nombre de personnes au sommet de l'État. On en a eu des signaux répétés. Le fils de Deng Xiaoping, Deng Pufang, a fait un discours où justement il s'est fait un peu le porte-parole de ceux qui estiment que Xi Jinping allait trop vite dans l'affirmation de la puissance chinoise, qu'il a mécontenté des pays qui pouvaient être des partenaires chinois. Alors c'est vrai que revenant à Hong Kong et à Taïwan, il y a aussi une question qui est que ces deux territoires veulent pas non plus être pris en otage, en fait, entre le conflit émergent entre la Chine et les États-Unis. Donc, bien sûr, ils s'appuient sur l'opinion internationale, mais dans les deux territoires, il y a aussi une conscience très claire du risque de devenir un pion dans le jeu de Washington. Donc, aussi bien les Hongkongais que les Taïwanais essayent de négocier entre ces deux. Voilà, ces deux puissances et ces deux logiques qui, bien sûr, n'ont pas leur propre bien-être au cœur de leurs préoccupations.
Jean-Philippe, déjà, on voit, et c'est le paradoxe, en fait, à l'issue de cette semaine mouvementée, et dans l'attente, encore une fois, de ce qui va se passer demain dimanche, manifestation prévue, mais aussi lundi, appel à la grève générale à Hong Kong. Donc, Hong Kong redevient un point stratégique à un moment où il y a tant de zones où ces tensions sont extrêmement préoccupantes. Enfin, aujourd'hui même, dans le Golfe Persique, évidemment en mer de Chine du Sud, Hong Kong retrouve, en fait, redevient un enjeu.
C'est la première fois que, depuis très longtemps, que je vois Hong Kong faire les premiers titres de la presse mondiale. Donc, effectivement, il est revenu au centre. Je dirais, pour utiliser une phrase du président Mao, que les dirigeants chinois ou les dirigeants de Hong Kong ont soulevé une pierre pour se la laisser retomber sur le pied. Je crois que cette volonté de remettre cet article sur l'extradition a été un échec assez fort pour la direction chinoise. On parlait de Taïwan, mais en fait, En renforçant cette pression sur Hong Kong un peu trop, on a réussi à faire parler Han Kuo-yu, qui est normalement le prochain candidat du Kuomintang, le plus proche.
Alors le Kuomintang, il faut le rappeler.
Le parti qui était parti de Chine pour s'installer à Taïwan, le parti de Chiang Kai-shek, les nationalistes, et donc qui sont aujourd'hui plutôt favorable à de bonnes relations avec la Chine. Han Kuo-yu, qui était parti là-dessus, a été obligé de faire une déclaration il y a deux jours en disant « c'est absolument scandaleux, nous ne pouvons rien faire, un pays de système, ça ne fonctionnera jamais, etc. » Ça, c'est un gros échec de Xi Jinping. C'est parce que, bien sûr, vis-à-vis de Hong Kong, c'est important, mais vis-à-vis de Taïwan, il y a eu un peu son échec dans son comportement vis-à-vis des États-Unis. Il y a aujourd'hui cette reculade quand même à Hong Kong, et cela pose des problèmes dans ses relations avec Taïwan. Donc je crois qu'effectivement, Xi Jinping est dans une séquence, comme on dit aujourd'hui, qui est plutôt négative pour lui. Et je crois que, évidemment, on sait, alors on ne sait pas qui, on ne sait pas quelle force, mais on sait très bien que dans ce type de régime, il y a des gens qui attendent que le numéro 1 fasse une erreur. Alors, est-ce que c'est l'erreur qui sera très importante et qu'il fera capoter? C'est pas évident. Mais il est évident qu'il est affaibli par cette histoire. Donc, je crois que reculer un petit peu sur l'affaire de Hong Kong, comme il le fait aujourd'hui, est un moyen de désamorcer la crise. Donc moi, je ne crois pas du tout qu'on reprendra la discussion sur l'article d'extradition. Ça, c'est shelved, comme on dit, et on n'en parlera plus. Il y aura de nouveau des tentatives de Pékin de limiter les libertés à Hong Kong, mais on va avoir très bientôt des réactions. Il y a des élections locales à Hong Kong au mois de novembre, et ça risque de faire comme après l'article 23, c'est-à-dire une défaite du camp de l'establishment. C'est donc des reculades pour Pékin, des reculades pour Xi Jinping, qui ne réussit pas à asseoir sa puissance absolument. Il s'est présenté en 2018 comme la personne qui allait réaliser le rêve chinois, qui allait redonner à la Chine cette place sur la scène internationale, etc. Et il est en ce moment dans une période où il est en train de reculer. Je crois que c'est quelque chose de très bon. Une fois de plus, Hong Kong est au centre de l'avenir de la politique chinoise. Depuis le début de l'histoire, depuis 1840 pratiquement, en tout cas depuis 1890, Hong Kong a été le lieu où s'est élaborée une forme d'avenir pour la Chine. Et aujourd'hui, il me semble que malgré la pression de Pékin, c'est peut-être l'occasion de redevenir cette espèce de laboratoire d'idées.
Eh bien, merci pour cette magnifique conclusion. Et encore une fois, nous serons évidemment suspendus à ce qui va se passer demain et lundi à Hong Kong. Merci à tous. Merci à vous, Jean-Philippe Béja. Je rappelle un papier très intéressant que vous avez publié dans la revue Pouvoir, il n'y a pas longtemps, sur la Chine de Xi Jinping, en marche vers un fascisme à la chinoise, avec un point d'interrogation. Et puis, je rappelle évidemment votre ouvrage À la recherche d'une ombre chinoise. C'était au Seuil en 2004. Merci à vous, bien sûr, Sébastien Weg, directeur d'études à l'EHESS, à Jean-Pierre Cabestan, depuis Hong Kong, qui a récemment publié Le piège de Thucydide, vu de Pékin. Thucydide, décidément, extrêmement à la mode. Ça, c'était dans Le Débat en 2018. Valérie Niquet, vous avez publié La puissance chinoise en 100 questions aux éditions Taillandier, c'était en 2017. Et merci aussi à Philippe Lecor, dont les papiers sont publiés sur plusieurs sites, et notamment ceux du Monde et de Ouest-France, je crois, aujourd'hui même. Merci à Eric Scholl de Courrier International, à la réalisation ce matin Alexandra Longuet, à la technique Jean-Guilain Meige. Meryl Monegatti a, comme chaque semaine, préparé cette émission et va mettre sur notre site toute la bibliographie nécessaire. Et dans un instant, comme chaque samedi, voici Hervé Gardette. Très bon week-end et très bonne semaine à l'écoute de France Culture, bien sûr.